Bonsoir à toutes et à tous. On va passer un petit moment ensemble et avec Yolande Mani. Avant de lui donner la parole, je vais simplement me présenter en deux mots, ça sera plus simple, je crois.
Merci.
Je m'appelle Serge Héroldi, j'ai été journaliste, je ne le suis plus. J'écris quelques livres quand je peux le faire, quand j'ai un petit peu de temps. Et le hasard fait que nous travaillons dans la même revue ensemble, la revue Le Festin, qui est une revue bordelaise, je pense que vous la connaissez. Voilà, je vais simplement vous dire deux, trois mots sur Yolande et ce qui nous amène ici ce soir. Donc Yolande Mani vient de publier un livre que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Une histoire de promesses, la vie rêvée des Italiens ». C'est publié chez Elitis. Si je suis venu aussi à ses côtés ce soir, c'est parce que cette histoire dont elle va nous parler tout de suite... touche également ma famille. Bon, il y avait des points forts communs que j'ai lus dans ce livre avec ce qui s'est passé dans ma famille. Yolande est professeur agrégé d'art plastique à Camille Julien, ici à Bordeaux. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle travaille également pour la revue Le Festin. Voilà. Alors peut-être pour aller directement au cœur de ce livre, Yolande, c'est peut-être que vous pourriez nous donner un petit peu la toile de fond et nous parler de ces Italiens qui sont arrivés un jour de 1924 pour les premiers dans le Gers, où vous êtes né, où vous avez grandi.
Voilà. Bon, il s'agit exactement, oui, de l'histoire de ma famille. Ça marche, on m'entend ? Oui. Et oui, et c'est une histoire donc... qu'il faut sans doute raconter parce que habituellement quand on parle de l'immigration italienne on pense souvent aux Siciliens par exemple, c'est eux qui ont fait la fortune d'Hollywood, la mafia, etc. On parle rarement de l'histoire des Italiens du Nord. Ce sont des gens qui ont immigré aussi massivement que les gens du Sud, mais sans doute parce qu'ils sont à la fois plus
silencieux, moins pittoresque.
Et peut-être moins photogénique, voilà, je ne sais pas. On en a beaucoup moins parlé. Ce qui fait que... il n'en reste que l'Italie du début du XXe siècle, si elle a provoqué l'exil des Siciliens, ce sont les mêmes conditions qui ont provoqué l'exil des Italiens du Nord... L'Italie du début du siècle, donc, est une Italie en grand désordre. Je ne vais pas m'avancer dans des grandes considérations historiques, parce que je ne suis pas une historienne. Mais enfin, chacun sait que les après-guerres sont toujours très difficiles, et particulièrement en Italie, puisque c'était à ce moment-là des régions surpeuplées, avec des familles très nombreuses, et sur des terres qui étaient elles-mêmes... assez petite et assez réduite, ce qui fait que la faim, la misère, etc., ont conduit pas mal de gens à choisir la solution de l'exil. C'est comme ça que l'histoire commence.
Alors, elle commence où exactement ? Je pose la question, je le sais, puisque
oui.
C'est le même village que mon grand-père, mais enfin, peut-être pour le préciser pour
donc, elle commence,
pour tout le monde.
Il s'agit des régions du nord de l'Italie, donc la région de Bergame, une région, donc, comme je l'ai dit, assez... sûrement surpeuplée et très misérable, même si on a encore dans l'idée que les régions du Nord sont plus riches que les régions du Sud. Mais à cette époque-là, je crois que l'Italie souffre d'une misère économique généralisée. Et ces gens-là, donc, décident à un moment donné de partir. C'est vrai que ça aussi, l'idée de l'exil fait partie aussi de la mentalité de ces gens, parce que sans doute qu'ils sont arrivés à un point où il n'y a plus d'autre solution, et c'est la seule qui reste, c'est donc celle-là. Je ne me rappelle plus la question du début.
Le village s'appelle Kalouskodad.
Oui,
enfin, je vais faire les questions et les réponses.
Voilà.
Kalouskodad, c'est un village à côté donc, de Bergame, vous l'avez dit.
Oui.
Simplement une précision, c'est que le système agricole, enfin, sans rentrer non plus dans des considérations historiques ou économiques ou géographiques, mais enfin, le système de la répartition des terres est que la terre est aux mains de grands propriétaires, voilà. sur lesquels se trouvent des métayers, qui ne s'appellent pas comme ça en Italie, mais enfin bon, c'est un système assez proche, avec des familles qui grandissent, et donc du coup un partage des terres qui est de plus en plus réduit pour...
Difficile ou impossible, et donc du coup
les familles ont du mal à vivre sur ces parcelles-là. Donc, on est en 1924, c'est ça ?
On est en 1924, et bon, l'exil massif des Italiens a commencé depuis longtemps déjà, mais il y a donc en 1924 un projet particulier qui se monte à Bergame, monté donc par le gouvernement, par les autorités politiques et par l'Église, qui a une force incroyable en Italie à ce moment-là, encore aujourd'hui, mais enfin à ce moment-là notamment. Et se monte donc un projet de réunir tous les candidats à l'exil pour qu'ils aillent en France fonder une colonie. Bon, évidemment que ça répond à une demande française, parce qu'ils ne partent pas comme ça au hasard. Il y a donc un échange entre la France et l'Italie pour que les régions françaises qui sont désertes suite à la Première Guerre mondiale aussi puissent être repeuplées par les populations italiennes qui, elles, voilà. donc s'étouffent sur le... Et cette colonie, c'est la colonie Saint-Alexandre, donc la colonie des Italiens qui vont s'implanter dans le Gers en 1924. Donc, ils partent...
Mais en masse,
voilà.
Les familles déménagent, on part, on emporte tout et on ne se retourne pas.
Ils partent à 140. Donc là aussi, ça va à l'encontre de l'idée classique de l'immigré qui part tout seul avec son baluchon sur le dos ou avec sa famille. Non, là, ils partent donc... en groupe, en collectivité. Ils sont 140 à arriver dans un petit village du Gers qui doit abriter à peu près une vingtaine d'habitants à l'époque, ou une trentaine. Et donc, c'est cette énorme masse qui va arriver d'un coup d'un seul dans un village qui n'est pas prévenu et qui va s'installer dans des conditions, évidemment, qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été prévu à l'origine, parce qu'évidemment, là aussi, lorsque des gens émigrent, ils émigrent avec un espoir et des rêves et des idées toutes faites. Et évidemment, l'histoire commence avec un voyage en train, et dès l'arrivée en France, ils déchantent, puisque tout ce qu'ils vont trouver là, sur place, n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient pu imaginer jusque-là.
Oui, parce que cette France, enfin, en tout cas dans le Gers, c'est une France qui a été rurale, qui a été dévastée par la guerre. C'est-à-dire que les hommes sont... beaucoup sont morts à la guerre, et les villages sont dépeuplés. Et il y a cette nécessité aussi de faire venir des bras, au départ, hein, en tout cas d'accueillir des bras. Mais il y a un petit malentendu... On va appeler ça comme ça. Enfin, c'est pas un petit malentendu. Vous pouvez peut-être en dire un mot.
Enfin, c'est pas un malentendu. Tout dépend de qui a entendu et quoi. C'est-à-dire que cette organisation donc, dont je viens de vous parler en colonie, donc organisée par l'Église, par les gouvernements et l'accueil prévu par le propriétaire des terres en France, tout ça se fait donc par contrat et échange entre, tout un groupe de gens qui va diriger tout ça. Mais les gens, les premiers concernés, les immigrants eux-mêmes, ne sont pas vraiment au courant de tout ce qui se trame. Ils vont le découvrir sur place. Quand ils partent, ils croient qu'ils vont trouver des maisons comme celles qu'ils ont, même si elles ne sont pas en très bon état, elles tiennent debout. Ils vont arriver en France dans des ruines. Ensuite, il y a aussi tout ce système de contrat qui est établi, c'est-à-dire que ce groupe d'immigrants ne va pas passer un contrat famille par famille avec un propriétaire. C'est le directeur de la colonie qui va passer ce contrat et un contrat qui les entourloupe complètement.
Un petit peu léonin, voilà. Comme on dit dans les facultés de droit.
Disons que le prix des terres, par exemple, fixé par le fameux propriétaire, est trois fois plus élevé que dans tout le reste du Gers. Enfin, il y a tout un tas aussi d'histoires ensuite. Je ne vais pas non plus toutes les raconter parce qu'on n'en finirait plus. Mais on est en temps de crise et il y a des histoires aussi de dévaluation de la lire par rapport aux francs, ce qui fait qu'ils ont emprunté pour venir en lire. Ils gagnent des francs et ils sont en deçà de ce qu'ils peuvent rembourser. Enfin, toute une histoire économique, financière qui va être carrément catastrophique.
Alors, On peut peut-être parler, bon, ça c'était la toile, le toile de fond, on va dire, à brosser, à grands traits, mais enfin, qui permet de comprendre dans quelles conditions ces gens arrivent. Le livre en lui-même, vous avez écrit ce livre maintenant, pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt, pourquoi maintenant, quel était le projet de départ, comment... est-ce que c'est un livre, vous avez précisé que ce n'était pas un livre d'histoire au sens universitaire du terme, c'est un livre que vous qualifieriez comment? Ce n'est pas non plus un roman, alors vous êtes dans quel registre? Vous avez voulu être dans quel registre?
J'ai eu du mal à trouver un registre parce que j'ai effectivement commencé par collecter des paroles. Après ça, comme j'étais un petit peu intimidée aussi par rapport à tout ce que je pouvais entendre, j'ai commencé par faire une sorte de recherche, quasi universitaire, qui ne l'était pas tout à fait non plus. Et puis ça a été dans un troisième temps. Donc la dernière formule, la formule romancée, est la dernière étape parce que c'est la seule que j'ai trouvée au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois la situation historique qui est réelle, les souvenirs, les faits, les gestes, les paroles qui sont des paroles que j'ai entendues, mais que j'ai donc replacées dans un contexte, cette fois-ci, que j'ai inventé. Et donc cette solution de la fiction a été la seule qui, à un moment donné, m'a paru possible, parce que, d'une part, ce que je voulais dire était irracontable de façon universitaire, parce que je voulais rentrer dans l'individualité, dans le cœur des gens, même si c'est un peu prétentieux. Je ne voulais pas simplement restituer une série de faits, je voulais donner la parole aux gens. Donc, dans ce cas de figure, il n'y avait plus que la romance, finalement, qui était possible.
Bon, et puis il fallait une distance, peut-être aussi, qui était difficile pour aborder des choses personnelles et familiales, en tout cas.
Oui. Enfin, moi, il me semble que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que par la romance, je me suis rapprochée. Que la distance, elle était dans la collecte, dans le cadrage historique. Là, il y avait une distance. Et que finalement, j'avais fait lire déjà ces épreuves-là, ces premières recherches, à des gens qui trouvaient ça bien intéressant, mais un peu ennuyeux à lire. Et dans mes premières recherches, j'avais glissé quelques petits textes plus littéraires. Où je me mettais davantage en jeu, moi-même. Et finalement, on m'a dit, ce qu'il y a de mieux dans tes recherches, c'est ces petits textes-là. Donc je me suis dit que j'allais prendre le parti de faire sur ce registre-là plutôt que me contenter d'un compte rendu historique que je ne maîtrisais pas, finalement.
Bon. Alors, dans ce texte, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de gens de votre famille. Et puis, il y a une figure un peu forte, un peu centrale, même si vous l'abandonnez un peu dans le récit et vous y revenez. Mais c'est celle de votre père.
Oui.
Parce qu'il fait la jonction quand même entre deux mondes, si je peux dire, entre celui de ses propres parents qui ont... installez-vous, vous avez des places devant.
Bonjour.
Bonjour. Et puis ses propres enfants, vous et vos frères et vos sœurs. Et lui, c'est le grand témoin un peu c'est le grand témoin du siècle, quoi. Hein, on peut dire. Puisqu'il aujourd'hui, il a 13 ans. Donc, voilà.
Bon, il a la particularité d'être quelqu'un de très érudit, impressionnant, inclassable, et qui sait parler, qui sait raconter, qui a des souvenirs précis, ce qui fait que, bon, c'est évidemment une grande richesse que j'avais à portée de main. Je l'ai aussi fait intervenir dans le livre, tout simplement parce qu'il y a donc cette histoire qui est l'histoire d'une immigration collective programmée et qui est très particulière en soi. Et lui, lorsqu'il intervient, il intervient donc comme un immigré solitaire, comme peuvent l'être beaucoup d'autres pendant la guerre ou après-guerre.
Lui arrive plus tard, hein, il arrive en 1943.
Il arrive en 1943, puisqu'il est, comme la grande majorité des Italiens à l'époque, dans l'armée italienne fasciste, et qu'au moment de la capitulation de l'armée italienne, il se trouve perdu, sans rien. Mais ça ne dure pas très longtemps parce que très vite, à ce moment-là, ce sont les Allemands qui récupèrent les soldats italiens soit pour leur demander de combattre à leur côté, soit pour en faire des prisonniers qui vont travailler pour eux. Donc il fait la jonction, mais en même temps, il est représentatif aussi d'une autre sorte d'émigrés, les émigrés qui sont là par hasard, qui sont venus sans l'avoir prévu, sans avoir décidé un jour qu'ils quitteraient leur pays. Ils sont là simplement parce que lui, en l'occurrence, à un moment donné, il s'est évadé de Cagnes-sur-Mer, où il était dans un camp donc tenu par les Allemands. Il s'évade et puisqu'il sait qu'il y a ces fameuses Italiennes à Le Gers qui sont là depuis quelques années déjà, il sait où se cacher. Il les connaît, il sait de qui il s'agit et donc il va les rejoindre et lui, il va arriver donc... Il va correspondre à cette formule de l'immigré solitaire, plus romantique peut-être.
Pour prendre le titre de votre livre, une histoire de promesse, à quel moment la promesse, si d'ailleurs elle a été tenue, je ne sais pas, vous allez nous le dire, à quel moment cette promesse... tant attendue prend corps et... 60, 80, 80, 90 ans plus tard, on peut dire, mais non, oui. Enfin, à peu près, où en est-on de cette promesse, où en est-on du sous-titre que vous oui. proposez, La vie rêvée des Italiens de France? Est-ce que le rêve est devenu réalité? Est-ce que la promesse a été tenue? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Dans un sens, sûrement que oui, puisque de toute façon, bon, cette histoire de promesse, il y a une promesse initiale qui fait que les gens se décident à partir. Et puis ensuite, il y a les promesses que les gens ont envie de croire, et peut-être qu'on ne leur a jamais fait de promesses, mais ils ont eu envie d'y croire pour pouvoir partir. Et il y a une promesse qui est déçue, c'est sûr, la première, celle de la première génération, celle des pionniers, donc la génération qui sont arrivées en tout début, ont souffert, ont tout perdu, ont tout raté, et malgré eux. Mais, bon, sans doute qu'il y avait suffisamment de gens coriaces et têtus là-dedans pour que le courage ne faiblisse pas. Et la promesse a été tenue plutôt pour la génération suivante, et ce, grâce à l'école, tout simplement. Enfin, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, alors que souvent, on dit que ça serait une illusion de croire que l'école peut changer les choses. Là, effectivement, je pense que c'est l'école qui a tenu ses promesses. L'école avec un grand E.
L'école qui a donné la possibilité de parler une langue nouvelle, qui a donné la possibilité d'écrire une langue nouvelle. Ça passe par la langue,
voilà,
aussi.
Voilà, ça passe par la langue, d'abord.
Très fortement. En particulier pour cette immigration-là, quand même, qui a été... Je pourrais en témoigner, mais qui a été très, très attentive à ça. Hein.
Oui, c'est ça.
La nécessité de parler, d'écrire et de d'être absolument
et
de nommer
voilà.
absolument en français.
Oui, effectivement, justement, puisqu'on parlait de colonies au départ, cette histoire donc de colonies fait que tous ces Italiens au départ vivent en circuit fermé et ne parlent pas le français. Au contraire, même, ils parlent le bergamasque et apprennent l'italien sur place. Le phénomène est quelque chose de très compact et de très fermé. Seulement, comme ça ne marche pas, comme ça finit par imploser, la réaction des gens qui veulent s'adapter et qui veulent rester là parce qu'un retour au pays est absolument hors de question, vont tout faire pour apprendre la langue. C'est la langue qui va les relier. Et ensuite, donc, évidemment, que c'est par l'intermédiaire de l'école qu'ils vont, et de la langue, qu'ils vont pouvoir prendre une place. Parce que c'est peut-être toujours ça, la question critique de l'émigration, c'est qu'on part, on perd sa place, on perd son centre, et on va vers un lieu inconnu où on n'a aucun repère et où on n'a pas de place. Et c'est par la langue, sans doute, et par l'école, effectivement, que la génération suivante a pu trouver une place.
Vous nous liriez un petit extrait ?
Alors, je vais choisir ça. Peut-être l'école, justement, puisqu'on y est, non ? Bon, ça commence un peu en plein milieu de page, mais puisqu'on parle de l'école. Heureusement, les grands ne restent pas dans ses jambes. Ils vont à l'école, ils travaillent bien. Tournés vers les fourneaux, quand le soir descend dans son dos, Maria détaille pour eux les fioritures de l'orthographe française. Les choses ont bien changé à l'école depuis la colonie, quand les enfants italiens n'avaient rien d'autre à faire que comptabiliser les merles qui se posaient sur le cerisier ou les vélos qui passaient sur la route. Les nouveaux instituteurs en ont fini de raconter que ces enfants-là sont des incapables, des indécrottables. Ils disent eux-mêmes, rendez-vous compte, qu'ils pourraient aller jusqu'au certificat d'études. Lorsque le maître vient dans les maisons, on le reçoit avec déférence. On insiste pour qu'il boive un café et tout le monde s'écarte de la table qu'on a vite essuyée avant qu'il n'entre dans la cuisine. Maria regarde fixement les petits, un doigt sur la bouche. Timidement, on écoute sa parole chargée de promesses. « Votre aîné, Paul, il faut le présenter au concours de l'école normale. » Lino demande alors comment s'y prendre, ce qu'il faut faire, de quoi il s'agit exactement, avec une boule au fond de la gorge. Et le maître s'enflamme, parle de la prestigieuse école normale comme s'il s'agissait de polytechnique, même s'il n'a nul besoin de convaincre. Dès les premiers jours de sa nomination à Blanquefort, au milieu de nulle part, il a été saisi de cet attachement des parents pour l'école, ému de lire dans leur regard une attente, une confiance qui n'a jamais faibli. Et dans la classe, seulement 3 enfants français. 3. Ce n'est plus une question, disons, de ségrégation, mais une raison d'évidence. Tous les enfants de la commune sont italiens, sauf 3. Sans les enfants du château, bien sûr, qui boudent l'école publique. Le maître se fait un plaisir de rendre l'appareil. Savez-vous que le marquis est venu me voir à l'école, l'air de se croire chez lui? Il a vu les bancs tout neufs et les nouvelles tables que nous avons achetées. Il n'a rien dit d'abord, puis il est revenu me dire « Pouvez-vous offrir votre classe à monsieur le curé qui va venir faire le catéchisme ?» Et j'ai répondu « Le catéchisme doit être fait au presbytère, pas à l'école. L'école est laïque et républicaine. » Il n'a pas insisté. Oui, ses élèves lui donnent force et conviction pour le rôle qu'il a à jouer. L'école est le seul passage qui leur soit ouvert. Leur reconnaissance doit venir de là. Alors qui trouvera à redire? Le curé, peut-être, qui a bien remarqué que tous les soirs de catéchisme, curieusement, les enfants quittent toujours la salle, plus tard la salle de classe. Curieusement.
Alors, bon, on est à l'école, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le ciment a fini par prendre, comment ces populations, donc ce groupe structuré, parce que 140 personnes, ça fait combien de familles? Ça fait une
dizaine,
12 familles.
Mais il y avait beaucoup d'enfants, hein, donc démultiplier, oui. c'est...
Voilà, 12 familles avec beaucoup d'enfants. Oui. Comment le ciment a pris avec les Gersois, enfin les Français qui vivaient là depuis toujours? Comment l'alchimie s'est faite? Est-ce qu'elle a mis du temps à apprendre?
Oui.
Comment ça s'est fait?
Oui. Bon, l'alchimie a mis du temps à apprendre, mais là, il n'y a pas à faire de reproches aux Français. Il y a d'abord cette histoire donc, dont je parlais tout à l'heure de communautés assez fermées qui fait que les Italiens, par peur, mais aussi parce qu'on leur a dit que les Français étaient des mécréants, qu'ils n'allaient pas à l'église, les Italiens donc restent soudés entre eux et puis se marient entre eux, etc. Donc restent pendant longtemps assez coupés finalement du monde des Français. Mais... ça risque d'être long, ma réponse, là. Ça fait rien. Mais donc, cette colonie, qui est donc en même temps subventionnée par le gouvernement fasciste, le gouvernement italien, hein, je ne veux pas trop insister sur les mots, là aussi, fascisme, c'est le gouvernement de l'époque. Donc, subventionnée par le gouvernement fasciste, doit se montrer. Elle se montre par des représentations théâtrales, par des mises en scène, etc., de représentations qui font qu'elle attire du monde, elle attire des spectateurs. Mais ça reste toujours dans ce rapport-là de gens qui viennent voir les spectacles, voir les manifestations culturelles qu'ils produisent, mais n'échangent pas vraiment. Ensuite, il y a aussi évidemment toutes les histoires de peur de l'étranger que tout le monde peut imaginer, d'autant plus que ces Italiens-là, quand ils arrivent dans le Gers, amènent avec eux des techniques agricoles que les Gersois ne connaissent pas, et des techniques agricoles qui sont très efficaces, ce qui fait qu'il y a un très fort rendement, et ça passe assez mal aussi dans les campagnes avoisinantes, parce qu'il y a tout simplement une jalousie qui va finir par exercer donc toutes sortes de rejets. Mais passé ces premières difficultés, c'est curieusement pendant la guerre, enfin d'après ce que j'ai entendu, évidemment, Et puis, je crois qu'il faut toujours aussi mettre un petit peu un bémol sur tout ce qu'on peut entendre, parce que les gens ne vont raconter que ce qu'ils veulent raconter. Donc moi, j'ai fait qu'avec ce qu'on m'a dit. J'ai pas pu aller au-delà. Mais apparemment, les gens ont pu dépasser tous ces problèmes-là à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que je crois que dans tout ce désordre incroyable que peut supposer donc être une guerre, à force de voir passer des Allemands, des Belges et de toutes sortes de gens, ben finalement, les Italiens ne sont pas si différents que nous, ont pensé les Français. Beaucoup les ont aidés, parce qu'ils se trouvaient en position très délicate, puisque Mussolini avait déclaré la guerre à la France, et ils se trouvaient, eux, étrangers, ennemis, au milieu de cette France-là, sans aucun secours. Et donc, curieusement, les Français, à ce moment-là, ont peut-être... Pour multiples raisons, ont un petit peu changé leur position. Et après-guerre, ça a été gagné quant à cette animosité-là. Et je crois qu'aussi, ils ont tous reconnu le travail qu'ils avaient fait, qui est un véritable travail physique, d'endurance, etc. Et les progrès donc, qu'ils avaient amenés, tous ces progrès-là ont été reconnus.
Puis ils ont redessiné un paysage aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, parce que les campagnes étaient quand même... Évidemment pas l'abandon, mais enfin très très très.
Oui, très abîmé.
Très abîmé après
ruine,
la guerre, quoi.
En ruine, voilà. Ouais. Bon, les ronces partout, etc. Mais en même temps, au fur et à mesure que je vous dis ça, c'est aussi ça a été aussi la chance de ces Italiens a été de pouvoir se réaliser dans la terre, parce que c'est quand même quand on immigre et qu'on commence à faire un travail qui ne ressemble à rien ou qui ne se rattache à rien de très concret, c'est difficile, tandis que là ils sont arrivés pour travailler la terre. C'est quand même quelque chose de fortement symbolique et en même temps très gratifiant. La terre, ça fonctionne, ça marche, ça pousse, ça produit, ça identifie un lieu. Donc je crois qu'ils ont eu la chance finalement, même si au départ dans ce groupe là de 140 personnes, tous n'étaient pas agriculteurs, loin de là, ils venaient parce qu'on demandait des agriculteurs, mais ils ne l'étaient pas forcément, mais ils ont quand même pu se réaliser dans ce rapport à la terre, dans cet ancrage dans la terre. Donc, on parlait de ciment tout à l'heure, c'est pas forcément des maçons, mais aussi des gens qui se sont donc intégrés grâce à une matière, ça c'est sûr.
Puis, ce sont les dernières pages du livre. Il y a aussi la question des... puisque vous parlez de la terre, il y a la terre qu'on cultive, et puis il y a la terre où l'on finit. Il y a la question des morts également, hein, qui fixe considérablement une famille, une histoire, une immigration.
Oui.
Les dernières pages sont... Enfin, vous en lirez peut-être un extrait tout à l'heure, ou comme vous voulez d'ailleurs. Ça, c'est une question aussi très forte. C'est les premiers morts qu'on enterre sur la terre étrangère qui devient, de ce fait, moins étrangère qu'elle ne l'était avant.
Et qui fait que, justement, dans ma famille, alors ce fameux père si emblématique... qui lui ne veut jamais rien faire comme tout le monde, qui ne veut pas acheter de terre, qui ne veut pas se faire naturaliser français, qui ne veut pas se dire s'arrêter là, qui parle toujours d'émigrer encore au Canada ou de revenir en Italie, etc. Quelqu'un un errant perpétuel. Évidemment que le jour où quelqu'un de proche de la famille meurt et qu'on enterre là, à ce moment-là, oui, c'est ce que je dis quand je dis quand on a une tombe avec écrit famille dessus, on peut plus bouger, on peut plus s'envoler. Donc ce rapport à la terre, là aussi,
c'est à ce moment-là que ça change.
C'est à ce moment-là que moi je l'ai réalisé. Peut-être que dans leur tête, j'en sais rien, mais bon, là j'étais quand même déjà assez grande, peut-être pour le réaliser, parce que bon. C'est pareil, c'est une histoire qui dure très longtemps, c'est une histoire que j'enregistre depuis que je suis née, mais de façon complètement confuse, sans la comprendre, et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai su, appris, compris, entendu d'autres choses qui finalement se sont construites pour donner ça. Et cette conscience de la terre, là, je ne l'ai eue que tardivement, évidemment. Je pourrais le lire, ce passage, mais je vais le retrouver assez vite, je ne sais plus trop où il est.
Il est à la fin.
Il est vers la fin. C'est pas très gai, hein.
On chantera une chanson après, peut-être on fera quelque chose de plus joyeux.
Le cimetière. un trou dans la terre. Quand Patrice est mort, Lino s'est mis à creuser un trou. Une place pour chacun. Donat a la vue au travail, avec la bêche, avec le ciment, le sable, les planches. Manches relevées en couronne autour des bras. Regarde ce que j'ai trouvé là. Il s'est penché et a ramassé, comme s'il ramassait un œuf, un petit crâne qu'il a enveloppé de sa main. Comme il est joli. Une petite fille, peut-être. Puis on y a mis Patrice avec ses mots, ne pleurez pas, je vous attends. Puis on y a mis maman, c'est ce qu'elle attendait depuis longtemps. Et un mois d'août, on y a mis Serge. C'est la mort qui a ouvert le trou de l'enracinement. Tant qu'on est vivant, on peut toujours partir ailleurs, même s'il y a peu de chance. Mais une fois qu'on a une tombe avec écrit famille, on reste là. Et la maison, qui n'a jamais été à nous, est plus que jamais notre maison. On va trouver plus gai pour remonter un peu le...
Est-ce que... Je ne sais pas très bien quelle heure il est. Je n'ai pas de montre, mais...
On a le temps encore.
On a encore le temps. Parce que, ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que vous pourrez poser des questions si vous en avez, si vous avez envie d'en poser, un petit peu plus tard. Voilà. Donc on avance un peu la discussion et puis on pourra dialoguer après. Est-ce que... Je reviens peut-être à la forme du livre. Est-ce que maintenant que cette histoire de promesses a été écrite avec les particularités que vous avez parlé précédemment et puis les difficultés aussi qu'il y a eu à se détacher des choses, des gens, est-ce que c'est maintenant l'heure de partir sur un autre livre qui serait plus romanesque encore et enfin complètement romanesque puisque celui-là ne l'est pas vraiment mais on l'a compris. Comment vous situez là par rapport à l'écriture, oui. Par rapport au texte et par rapport
C'est vrai que c'est un livre qui a été très difficile à écrire parce que je parlais de gens qui ont existé et qui existent encore pour la plupart. Donc j'avais un lien, eu un compte à rendre. J'ai eu du mal à me placer moi-même, j'ai eu du mal à mettre jeu à un moment donné parce que je me sentais encore la petite fille sous l'emprise de cette famille toute puissante finalement. Donc ça a été un travail difficile justement pour trouver, pour que j'arrive à trouver ma place. Mais tout ça parce que donc j'avais un interlocuteur potentiel que je pouvais identifier, en l'occurrence le fameux père, qui suivait chapitre par chapitre l'écriture, et duquel je devais m'émanciper. Donc le travail d'écriture a été de passer d'une histoire collective qui concernait des gens que je n'avais connus, mais très peu quand j'étais toute petite, puis de passer à l'invention de la vie de ma famille, de mon père, de ma mère, et puis ensuite de passer à moi. Et c'est vrai que c'est au moment où j'ai pu me mettre en scène moi, même si c'est pas moi d'ailleurs, parce que j'ai pris un autre nom, hein, c'est pas de l'autobiographie au sens pur et strict du terme, mais c'est vraiment là évidemment que je me suis sentie le plus à l'aise, puisque j'avais plus cet interlocuteur invisible ou visible à contenter. Mais c'est vrai que je suis restée aussi sur une certaine frustration parce que bon, il y a le temps, il faut écrire, il faut faire vite, il faut pas trop perdre de temps justement parce que les gens dont il est question sont très fragiles, sont destinés à disparaître très bientôt. Donc il fallait que je me dépêche. Et c'est vrai que j'ai maintenant le projet déjà, mais là-dedans, hein, le projet de me resservir de cette matière, mais pour une fiction qui, au début de laquelle je pourrais écrire toute ressemblance avec des personnages existants et existés, purement fortuite. J'aimerais bien arriver à écrire ça, puisque là, justement, c'est le contraire.
Qu'est-ce qu'il dit, votre père, justement, de ce livre et de...
Il ne parle pas beaucoup.
De ce texte.
Oui, non. Autant il a parlé pour raconter, autant il n'a jamais vraiment donné son avis pour les choses qui étaient bien. Il a toujours. il s'est toujours réservé pour tout ce qui n'allait pas, les notes en classe, etc., quand j'étais petite. Mais pour ce qui va bien, il y a une pudeur. On ne dit pas. On ne dit pas, on ne remercie pas, on ne congratule pas. Tout se fait plutôt par geste et symbole. Donc, par exemple, le chapitre qui le concerne, où j'ai, à partir de quelques petites bribes donc, que je savais de lui, j'ai imaginé une journée entière, même deux journées entières à la file, du matin jusqu'au soir, ce qu'il fait, ce qu'il mange. Et donc, j'ai envoyé ce texte par la poste. Et c'est vrai que j'avais un trac énorme. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait trouver de ce... Qu'est-ce qu'il allait penser de tout ça, d'autant que c'est quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux. Donc, la romance, à savoir... Enfin, j'avais vraiment très peur. Et puis, il ne m'a rien dit, mais ce que je sais, c'est que soit mes frères et sœurs m'ont dit que dès qu'ils touchaient au paquet de papier, il leur arrivait dessus en leur disant « Surtout, ne le salis pas, ne le mets pas n'importe où, et où tu l'as mis. » Enfin, bref, il avait une proximité, une attention chaleureuse envers ces quatre feuilles de papier qui prouvaient que ça avait dû lui plaire. Quand même. Voilà, mais évidemment, il ne me l'a jamais dit directement.
La question de la naturalisation chez lui, ça s'est réglé comment ? Ça s'est pas réglé comment ?
À quel moment il... Ça s'est pas réglé parce que je crois qu'il l'a demandé une fois qu'on lui a refusé, que ça l'a tellement vexé que...
Voilà.
Ouais. Mais ça, il me l'a dit sans me le dire, c'est-à-dire qu'il l'a échappé dans sa barbe, mais sinon il m'a dit non, je voulais rester italien, mais je crois que c'est parce qu'il a été vexé d'avoir reçu un refus une première fois.
Bon, donc pour lui, qui est donc aujourd'hui italien, la question qu'est-ce qu'être français ne se pose pas. Donc,
mais ça ne se pose pas pour moi non plus.
Et pour vous, ça se passe comment quand vous entendez...
Enfin, ce genre de questions-là, moi je trouve ça d'une stupidité totale. J'ai jamais cherché à participer à ce genre de discussion parce que l'identité, ça se construit tous les jours, que c'est jamais achevé, que c'est pas, ça ne peut pas être quelque chose de défini. L'identité, c'est une conquête, une construction. Donc, je vois pas comment on pourrait l'arrêter à quelques critères, à quelques clichés. Donc voilà, je n'en parle pas. L'identité, c'est d'avoir soi-même. C'est pas des clichés.
Aujourd'hui, à Blanquefort, donc dans le Gers, je crois qu'il y avait eu, avant de poser ma question, il y avait eu un texte écrit, mais là, universitaire, il y a déjà des années, qui avait utilisé justement le village de Blanquefort, puisque c'est ce village dont il s'agit, pour faire une étude sur les familles italiennes qui ont essaimé, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, je dis, c'est ça sous votre contrôle, parce que c'est des souvenirs uniquement, que dans le canton, enfin en tout cas dans toutes les communes autour, aujourd'hui, les noms italiens se sont multipliés. Enfin, c'est quelque chose d'assez important.
Je crois que dans le Gers, il y a 50% de Français, 50% d'Italiens, en gros.
50%.
Ouais. Enfin, dans le Gers, c'est aussi dans le...
50% d'origine italienne. Enfin,
oui, voilà. Ils sont plus italiens. Ils sont d'origine italienne. Ouais. Des Italiens italiens, il ne reste pas beaucoup. Parce que tous aussi, au moment où ils sont passés donc, de cette condition un petit peu d'esclave du début, ils sont passés propriétaires. À ce moment-là, ils se sont pour la plupart fait naturaliser français. Et donc des Italiens encore... vraiment italien, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Non. Il reste presque plus. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a une quantité incroyable de gens qui se sont complètement fondus dans le paysage. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en a moins parlé ensuite, parce qu'ils ont eu ce réflexe de disparaître plutôt que de se montrer. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui leur a été inculqué depuis le début, c'est-à-dire cette histoire de soumission, d'obéissance qu'ils avaient déjà sur la tête en Italie, qu'ils ont ramené ici. Ils n'ont jamais osé trop faire de bruit, ils n'ont jamais osé trop parler. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter que si j'ai choisi ce système pour raconter cette histoire, si j'ai choisi le système de l'autobiographie, qui n'en est pas une parce que j'ai inventé tant que j'ai voulu, j'ai quand même choisi l'histoire d'une famille, tout simplement parce que les gens que j'avais interrogés, les gens avec qui j'avais eu des échanges, continuaient 50 ans après à ne pas oser dire de façon publique ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient souffert. Ils voulaient bien me le dire à moi, mais ils ne voulaient pas que ça sorte de là. Donc j'ai utilisé le système de ma famille, parce que ma famille, je sais qu'elle était d'accord pour parler. Donc j'ai pris mon grand-père, ma grand-mère, etc., pour qu'ils puissent dire à la place des autres ce qui s'était vraiment passé. Mais il y a encore des gens, donc, même plus de 50 ans après, on en est à combien là, qui continue à avoir peur des représailles, qui continue à avoir peur de parler, peur de dire vraiment ce qu'il pense.
La question du, en tout cas pour les générations, enfin celle de votre père, hein, parce que bon, pour les enfants nés en France, ça se posait peut-être pas de la même façon, même pas du tout d'ailleurs. La question du retour au pays, est-ce que comment ça s'est passé dans votre famille, et d'une manière générale chez cette génération qui est arrivée, qui a eu quand même des grosses désillusions. Comment cette question du retour était envisagée ou pas ?
Mais il y a eu la question du retour qui a été formulée dès le premier jour. C'est-à-dire que lorsque les familles en 24 arrivent et trouvent des ruines partout,
ils veulent repartir
aussitôt, mais comme ce sont des gens pauvres qui ont tout misé financièrement, qui ont mis tout leur argent dans le voyage, ils n'ont absolument aucune possibilité de retour. Ils espèrent qu'un jour ils vont revenir, mais en réalité... Ils ne vont pas y arriver. Pour des gens comme mon père, et puis pour d'autres aussi, je crois qu'il y a eu la peur du retour. Alors là aussi, je m'avance un peu parce que je ne suis jamais arrivée à leur faire dire ça, et puis je n'ai jamais osé le demander précisément non plus, ce n'est pas à moi de juger. Mais je crois que, par exemple, pour mon père qui a été dans l'armée fasciste, avec tout ce que ça véhicule comme idée, comme sentiment dur et négatif, revenir, c'était peut-être aussi revenir sur quelque chose qui avait été peut-être un peu trop douloureux. Et puis, le temps passant, le retour, finalement, s'est avéré impossible. Mon père a parlé de retour jusque dans les années 60, et puis, du jour au lendemain, il n'en a plus jamais reparlé, et il ne veut même pas imaginer y mettre les pieds, même si on lui a proposé, etc. Alors là, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Hein. La peur de retrouver... La raison la plus facile serait de dire qu'il a peur de ne rien retrouver, justement, puisque de toute façon, c'est des générations anciennes. Ou qu'il a peur de trouver quelque chose qui va lui faire regretter tout ce qu'il n'a pas fait. Enfin, c'est trop complexe, moi, je crois. Étant donné que ça a venu aussi le fait de hasard... Et de frustration en même temps, parce que c'était pas une décision, revenir en arrière et se dire, tiens, si j'étais restée là, et puis peut-être un peu de honte, tout simplement. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la salle qui m'a fait penser à ça un jour. La honte d'être partie de chez soi, la honte de s'être retrouvée ici comme miséreux, la honte de toutes ces violences-là qui fait qu'à un moment donné, on arrête... On fait une croix dessus, peut-être. Je voulais remercier mes élèves d'être venus. Voilà. Comme s'ils n'en avaient pas assez de m'entendre à longueur d'année, ils sont quand même venus. C'est très gentil.
Merci.
Je voudrais remercier tout le monde aussi. Petit clin d'œil aux élèves. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Voilà. Merci à vous.